dimanche. Je peux voyager partout, aussi longtemps que j'aurai des ailes. J'irai là où mon cœur m'appelle. Il n'est pas question que je redescende, sauf peut-être pour aller manger. En attendant, ça peut attendre. Je goûte au bonheur, je suis pas pressé.
C'est fini.
Aucun animal n'a été maltraité pour faire cette émission.
La prochaine méga combi,
c'est mercredi. Méga combi, c'est fini. Si t'as pas tout compris, si tu veux écouter cette émission la nuit, si tu veux te faire des amis, si tu veux te la péter devant tes amis, si tu veux faire grandir les petits, si tu veux faire peur à mamie, si tu veux ta dose de méga combi avant le prochain mercredi, va sur internet et tape. C'est fini.
Rebelle des radios.
Et donc il est 19h passé de 4 minutes maintenant, nous sommes le mercredi autour du 17 mai il me semble bien 2017.
Tout à fait. Et ce soir nous parlerons d'un nouveau gouvernement.
Et puis nous irons voir, nous irons faire un petit tour en Afrique pour regarder Macron depuis Ouagadougou.
Ensuite, nous aurons une petite chronique contre le fascisme qui s'intitule « Même pas peur ».
Des brèves des frontières.
Ensuite, nous aurons une petite revue de presse tirée du site lundi matin.
Un petit machin pour instruire nos oreilles.
Ensuite, nous parlerons modèle économique allemand.
Et puis, quoi, un petit agenda ?
Et on commence par des brèves.
Et une brève, très exactement, puisque Chelsea Manning est sortie de prison. Alors, pour rappel, c'est elle qui avait balancé...
C'est un club de foot anglais ?
Eh bien non, pas du tout. C'est une lanceuse d'alerte, peut-être même la première, je ne sais plus, c'était, je me demande si c'était avant Edward Snowden en tout cas. Pour rappel, c'est elle qui avait balancé à Wikileaks des infos concernant plusieurs cas de torture et de bavure de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Elle officiait à l'époque comme analyste militaire au sein de l'US Army. Et environ 700 000 documents avaient fuité, dont le plus célèbre, une vidéo montrant une attaque d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine tuant plusieurs civils en Irak. 18 personnes étaient mortes durant ce raid. Les documents avaient également révélé la torture qui sévissait à la prison d'Abu Ghraib en Irak, qui était sous contrôle américaine, et les programmes d'attaque de drones du gouvernement américain. Ces documents avaient fuité en avril 2010. Chelsea est arrêtée en juin 2010. Elle sera jugée par un tribunal militaire qui la condamnera à 35 ans de prison. La petite anecdote dit qu'elle avait communiqué notamment sur la diffusion de cette vidéo à un célèbre hacker qui lui l'avait balancé au FBI, ayant peur des poursuites qui risquait quoi. Mais il l'avait quand même un peu, enfin c'était pas seulement de la crainte quoi, il l'avait quand même un peu berné, parce qu'il s'était, il se serait fait passer pour un pasteur à l'époque, lui disant t'inquiète, tu peux tout me dire, ce sera couvert par le secret de je sais pas quoi, des pasteurs. Bref, elle a été condamnée à 35 ans de prison, mais à la fin de son mandat, Obama gracie presque. Alors c'est pas tout à fait une grâce, hein, Chelsea Manning, puisqu'il a réduit sa peine qui était de 35 ans à 7 ans de prison, donc la rendant libérable aujourd'hui, ce qu'elle est. On lui souhaite bonne vie.
Alors vous allez enfin nous révéler quel est le nouveau gouvernement ?
Oui, surtout que la musique est tout à fait appropriée. Il y a un journal espagnol qui a parlé d'une paella avec de multiples ingrédients. Il s'agit donc du gouvernement Macron 1. Et alors, pour rester dans la métaphore culinaire, c'est assez gratiné. Il y a des petits morceaux au milieu qui sont un peu difficiles à avaler. On va essayer de les énumérer. Alors, on peut commencer peut-être.
Commençons par le ministère de l'Intérieur, puisque non seulement c'est le plus fameux, c'est un peu le boss dans la hiérarchie des ministres qui ne sont pas Premier ministre. Et en plus, on se sent un petit peu particulièrement concerné, presque honoré.
Représenté.
Donc, ministre de l'Intérieur, Gégé Collomb. Gégé pour les intimes. Et je voudrais quand même saluer Macron, qui a dû faire ici une démarche humanitaire, puisque je vous rappelle un petit peu ce qui est arrivé à Gérard Collomb. Il l'a précisé il y a quelques semaines qu'il vivait, j'ouvre les guillemets, un cauchemar. Effectivement, il vivait un cauchemar puisqu'il ne touchait plus que 4000 euros par mois du fait de son absentéisme au Sénat. Et donc, il s'était un petit peu plaint. Il avait dit que vraiment, là, ça commençait à devenir un petit peu compliqué pour lui. Voilà.
Alors, Gégé Collomb, on le connaît bien. Le site Rebellion avait recalculé un peu ce que pouvaient être ses différents revenus avec les primes d'OSI, les indemnités de ça, etc. Et en fait, de 4000 euros, que lui considérait vraiment comme une misère, c'était quand même plutôt 20000 euros par mois qui tombaient dans sa poche.
Voilà, Gérard Collomb, c'est quand même quelqu'un qui résout des problèmes de mathématiques complètement incroyables, c'est-à-dire qu'il arrive à être encore... Enfin, il est à droite du PS qui est déjà à droite, donc c'est vraiment quelqu'un qui est... Enfin, c'est assez exceptionnel. Et puis, juste pour vous donner une idée de son caractère assez cohérent, dans sa ville, il y a le rythme scolaire des 4 jours et demi qui a été mis en place, mais lui... Bah lui, il a mis ses filles dans une école privée, du coup, parce que du coup, ça permettait de zapper ce type de rythme scolaire. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez quelques mots d'amour à lancer à l'encontre de ce nouveau ministre de l'Intérieur.
Bah, on peut dire que c'est quand même lui qui est l'instigateur de la vidéosurveillance à Lyon.
Ouais, c'est sûr que globalement sa politique lyonnaise est ultra sécuritaire et ultra anti-pauvre, en particulier pauvres migrants. Alors de faire de ce bonhomme un ministre de l'Intérieur, donc ça va pas beaucoup nous changer des différents ministres de l'Intérieur qu'on s'est tapé depuis deux ou trois mandats présidentiels, c'est-à-dire quand même globalement des gens qui font dans l'ultra-répressif.
Voilà, on peut aussi citer son inconditionnel soutien pour que soit construit un immense stade sur des terres agricoles, alors qu'il y avait déjà un stade de foot, hein, c'est un autre stade de foot, donc déjà un stade de foot, on s'en fiche, mais rien comme ça, il y en a deux. Donc il y en a un qui est quasiment à l'abandon, et en plus ça a permis donc effectivement d'exproprier un certain nombre de gens qui étaient sur leur terre.
Ça a aussi permis de faire varier les prix des terres, hop, juste au bon moment, en fonction de ses poches à lui.
Voilà, et d'alimenter aussi, les amis du BTP qui ont pu se rincer au passage avec un tram qui permet d'aller donc jusqu'au terrain de foot, enfin jusqu'au stade de foot, alors qu'évidemment un tram aurait pu permettre de se déplacer dans la ville, mais bon, voilà, c'est un peu ça, GG Colomb.
Et puis c'est pas seulement ça, parce que Gérard Collomb, c'est aussi alors Macron qui parlait de renouvellement de la politique, Gérard Collomb est quand même globalement élu et tournicote dans la politique depuis 1977, c'est-à-dire précisément 40 ans. Et puis il a enchaîné toutes les sortes de mandats locaux, en tout cas maire d'arrondissement, député, sénateur, maire de Lyon, président de la communauté urbaine lyonnaise, puis de la métropole, et puis surtout, Macron est censé être contre le cumul des mandats, Gérard Collomb est lui explicitement déclaré pour le cumul des mandats, c'est-à-dire contre le non-cumul des mandats.
Il a fait plusieurs déclarations dans ce sens.
Il a fait plusieurs déclarations dans ce sens. Et alors, pour le coup, c'est quelqu'un qui dit quelque chose et qui fait autre chose. Parce qu'alors, pour cumuler, le bonhomme, il cumule. Il cumule jusqu'à sa nomination comme ministre. Il présidait aussi de longue date la plupart des sociétés d'économie mixte de Lyon, notamment la société d'économie mixte qui s'occupe de l'aménagement urbain, celle des hôpitaux et encore des transports en commun, le Citral. Il est aussi... Il est aussi sénateur du Rhône. Et alors donc, c'est comme il est sénateur, mais comme il est 200 000 autres choses dans la vie, c'est pour ça qu'il a vraiment pas pu aller au Sénat et que le Sénat a fini par lui faire vivre un cauchemar
bien sûr,
en diminuant ses indemnités du sénateur, vu qu'il y mettait à peu près jamais les pieds. Il est aussi maire de Lyon, donc, et président de la métropole du Grand Lyon. Et voilà.
Et c'est quelqu'un qui a une vision, tout le monde le sait, une vision très particulière de l'aspect collaboratif, au sens si, en gros, il faut être d'accord avec lui ou sinon.
Sa manière de faire, nous dit Rebellion, avoir la main sur tout ce qui se passe en ville, le tout avec une mégalomanie certaine.
Exactement. Ensuite.
Eh bien, ensuite, on va passer aux autres ministres. Alors, le suivant, qui est lui aussi ministre d'État, comme Gérard Collomb, ça, c'est une sorte de petit bonus qu'on leur donne pour que ça veut un peu dire super ministre. Donc, Gérard Collomb, le second dans l'ordre de la hiérarchie des ministres, c'est le ministre de la Transition écologique. Et c'est.
Et c'est donc. Musique d'Ushuaïa, c'est Nicolas Hulot. Voilà, qui a enfin arrivé à trouver une place de ministre. Bon, moi, j'ai rien de spécial à raconter sur lui. On verra un petit peu ce que ça peut donner. Mais voilà, donc Nicolas Hulot dans le gouvernement.
Le ministre d'État, garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, est...
Tagada de soin de soin, François Bayrou. Alors, c'est pas Bayrou, c'est ouais. François Bayrou. Voilà. Donc, François Bayrou, qui s'était allié avec Macron et qui donc récupère ce ministère. Il aurait peut-être voulu imaginer autre chose à l'époque, peut-être être président, etc. etc. Toujours est-il que c'est un joli cadeau de consolation. Et voilà, il n'y a plus qu'à le regarder faire.
En tout cas, pour ces trois ministres, alors je ne sais plus Nicolas Hulot, il était secrétaire d'État, je crois seulement sous Sarkozy, je ne crois pas qu'il était ministre. Et en tout cas, ça, pour ces trois, ça montre que Macron, quand même, il est allé chercher ceux qui espéraient depuis tant et tant d'années des ministères au point de lécher les bottes au moindre premier ministre ou ministre qu'il pouvait croiser
ville. Mais là, on n'a surtout pas énuméré ce qui devient de plus en plus glauque et c'est ce qui arrive là.
Et alors, on continue avec. Alors maintenant, on ne parle plus de ministre d'État, mais simplement de ministre, et donc on peut commencer à avoir des femmes. Et donc, la ministre des Armées.
Alors, Sylvie Goulard, alors je précise, elle est de l'ENA, hein, donc c'est bien hein, quand même, ça permet d'avoir quand même le quota d'énarques dans ce gouvernement. Modem. Et alors, ce qui est un petit peu rigolo, rigolo dans les anecdotes la concernant, c'est qu'elle fait partie d'un groupe de penseurs-penseuses avec Daniel Cohn-Bendit. Donc on rigole un petit peu parce que Daniel Cohn-Bendit, oui. Il faut se rappeler qu'il avait soutenu publiquement Macron parce qu'en fait il n'y avait pas d'autre solution que Macron et qu'en fait il n'y avait quand même pas d'autre solution que Macron. Donc Cohn-Bendit, ils font partie tous les deux, donc avec Sylvie Goulard, la ministre des Armées, du groupe Spinelli, qui consiste, j'ouvre les guillemets, à regrouper un réseau de citoyens politiques, universitaires, écrivains, convaincus qu'il est temps pour l'Europe d'aller de l'avant, tu vois. Donc il y a pas, il y a la robe qui voilà. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est ce petit côté un petit peu élitiste quand même. Il y a les politiques, les universitaires, les écrivains, bon, il y a les citoyens. On imagine que bon, les ouvriers, les employés, les chômeurs, les voilà, ils sont peut-être moins considérés dans cette idée de pouvoir participer à ce groupe Spinelli de réflexion pour faire avancer l'Europe de l'avant. C'est écrit, hein, de l'avant quand même. Ah.
Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est
Jean-Yves Le Drian, qui était un socialiste, qui était présent au précédent ministère, qui était donc, il était à la Défense. Alors du coup, on peut s'inquiéter un petit peu sur l'aspect du côté diplomate des armées, entre guillemets. Je le cite quand même, précédemment, donc il avait réussi à vendre des Rafales, ils étaient hyper contents. Il avait dit, réussir à vendre le Rafale avait été comme gagner le Tour de France, donc vraiment ce petit côté hyper content de vendre des armes, et alors il y a un de ses amis qui nuance, il dit il ne vend pas des armes, il vend des partenariats stratégiques, voilà. Donc c'est là où on peut un tout petit peu s'étrangler, dans la mesure où il est ministre des Affaires étrangères et que s'il commence à penser la diplomatie sur ce type d'arrangement stratégique, on est quand même un peu mal. Bon, on va voir ce qu'il va donner.
Le ministre de la cohésion des territoires, pour autant qu'on comprenne ce que ça veut dire.
Alors on comprend pas bien ce que ça veut dire, d'ailleurs on comprend pas bien ce qu'a fait ce monsieur. Il s'agit de Richard Ferrand, juste pour la petite blague, ben, il était adhérent au PS depuis 1980 et puis après il est devenu secrétaire général d'En Marche. En fait c'est probablement quelqu'un de finalement d'assez intelligent, puisqu'il a dû se dire, mais bon Dieu, je suis de droite, je suis dans un PS, et je suis au PS, et pourquoi je resterai au PS puisque je suis de droite, sachant que le PS aussi est à droite. Donc il s'est dit, je vais faire comme Macron, je vais créer un autre mouvement de droite, et donc il a été secrétaire général d'En Marche.
La ministre des Solidarités et de la Santé.
Alors, je n'ai pas énormément d'infos, mais c'est Agnès Buzyn, qui est professeure d'université en médecine, donc qui est assez spécialiste des questions de santé.
La ministre de la Culture.
Françoise Nyssen, tout ça c'est pour l'instant assez correct, on arrive dans des choses très croustillantes. C'est la directrice de la maison d'édition d'Actes Sud.
Ouais.
Donc quelqu'un apparemment assez intéressant.
Mais peut-être que tu vas plus pouvoir nous dire des choses croustillantes sur notre nouveau ministre de l'économie.
Alors là, le problème, c'est que je n'oserais même pas dire qu'on s'étrangle, parce qu'en fait, on l'avait vu venir, mais quand même, donc t'as quand même bien parlé du ministre de l'économie, donc la personne qui va sûrement donner l'impulsion stratégique de l'économie. Voilà. Donc c'est un baba cool, hein. Il s'agit donc de Bruno Le Maire. Donc je plaisante bien sûr, hein, qui est dans. Alors pour vous rappeler quand même, j'ai ressorti un vieil article de Regard.fr, Bruno Le Maire, qui s'appelait Bruno Le Maire, la droite de synthèse. Donc Bruno Bruno Le Maire, il veut, alors j'ouvre les guillemets, éviter que la France continue à errer toujours plus faible, menacée du pire. Voilà. Alors Sarkozy l'appelait mon petit Bruno, il trouvait qu'il avait un charisme d'huître, hein, c'est pareil, j'ouvre les guillemets. Et donc c'est quelqu'un, c'est un énarque de nouveau, bon il n'a pas eu une enfance facile, hein, puisqu'il a été élevé dans la bourgeoisie.
Il n'a eu un âge adulte non plus, hein, parce qu'il me semble que là il s'est présenté aux primaires, et que, enfin peut-être que tu vas y revenir.
Voilà, mais disons que dans ses premières années, c'était délicat, puisqu'il a quand même évolué dans la bourgeoisie parisienne, chez les jésuites, dans le 16e arrondissement de Paris. Et qu'ensuite, il a fait Sciences Po Elena. Donc voilà.
Détruit un bonhomme.
C'est sûr. Non, mais ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'était un candidat à l'investiture des Républicains. Donc c'est un vrai Gus de chez les Républicains, qui est vraiment glauque de chez glauque. Et alors lui, il est particulier parce qu'il est très fort. C'est-à-dire qu'il lave plus blanc que blanc, j'ouvre les guillemets. Je veux faire exploser le système dont je suis le produit. Je suis le mieux placé pour entamer cette transformation profonde. C'est-à-dire que lui, il est énarque, il est donc dans cette filiation un petit peu bourgeoise, etc. Et il dit, ben, je connais très bien comment on lave blanc, donc je vais encore laver plus blanc, en faisant un petit peu différemment, en faisant exploser le système. Donc c'était à la mode de dire ça. Je vous donne quand même quelques propositions à lui. Je ne sais pas comment il va les appliquer au ministère de l'économie, mais enfin bref, code du travail simplifié, fin des 35 heures, privatisation de Pôle emploi, ça c'est quand même joli ça, ça c'est beau ça.
C'est bien.
Bravo Bruno Le Maire, formation professionnelle mieux encadrée, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des bidas, j'en sais rien. Mettre fin au social pour défendre la solidarité. Ah. Pour moi ça veut dire rien du tout, mais bon bref. Alors les aides sociales, il se prononce pour que son cumul, donc des aides sociales, ne dépasse pas 60% du SMIC pour les personnes en âge et en condition de travailler. Parce que 60% du SMIC, c'est comme on dit, c'est on roule sur l'or.
C'est l'opulence.
Donc voilà. Plus que ça, t'enlèves.
L'âge légal de la retraite pour ce Bruno Le Maire, donc je répète, qui est quand même mon 7e rang ministre de l'économie, donc c'est vraiment terrifiant. Lui, ils veulent mettre à 65 ans pour tous et toutes, pour tout le monde. Et alors, pour celles et ceux qui sont fonctionnaires, je vous donne un petit peu son idée. Hein, c'est jour de carence pour tous les fonctionnaires, rémunération mérite. Ça c'est bien ça, vraiment top.
Ouais.
Possibilité de licenciement, ça c'est vraiment top aussi. Développement de la contractualisation, donc un maximum de précaires chez la fonction publique. Réduction du nombre d'emplois publics à 1 million sur 10 ans. Enfin bref, c'est du libéral plus. Et c'est dans Macron 1.
Maintenant, peut-être que qui est-ce qui va être chargé de nous faire de nous concocter toutes ces belles réformes que le président veut appliquer par ordonnance ? C'est certainement la ministre du Travail.
Alors c'est Muriel Pénicaud. Alors on avait eu Myriam El Khomri qui était quand même déjà balèze, et là, bon, je la connais pas spécialement, mais Muriel Pénicaud, jugez-en par son CV, membre des conseils d'administration de plusieurs multinationales, elle a été entre autres directrice générale des ressources humaines du groupe Danone et directrice générale adjointe de Dassault Systèmes. Donc là, il y a un beau pédigré.
Il y a du lourd.
Mais, alors là, je te sens un petit peu cynique. Je te sens un petit peu cynique. Parce qu'actuellement, elle est directrice générale de Business France.
Ah, ça va mieux.
Et là, ça va quand même mieux. Donc, je rappelle, c'est la ministre du Travail. Et donc, Business France, c'est un réseau mondial, je vous l'ai guillemets, c'est un réseau mondial qui est à votre service, donc à ton service, à toi, à moi. Pour tout ce qui concerne l'export, pour tout ce qui est l'investissement et les partenariats internationaux, Business France accompagne les entreprises françaises. Donc, c'est un peu le modèle de dire, alors, on va vous aider à tous les niquer, bon, vous l'avez peut-être déjà fait en France, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à l'export, on va essayer de propager cette idée de compétition à l'export. Donc voilà, donc je voudrais pas lui faire un procès d'intention juste parce qu'elle est responsable de cette espèce de pièce montée. Toujours est-il, ça augure quand même pas grand-chose de très bon, mais il y a pire après.
Alors après, on a le ministre de l'Éducation nationale.
Ouais, alors là, c'est carrément tordu. C'est Jean-Michel Blanquer. Là, lemonde.fr a dit cash, un spécialiste marqué à droite à l'éducation nationale. Alors, c'est pas qu'il est à droite, c'est que c'est carrément un mec de droite. Il est actuellement directeur général de l'ESSEC. Donc, l'ESSEC, c'est une énorme école de commerce. Donc, les écoles de commerce, enfin, une des plus cotées. Ce que ça veut dire coté, je sais pas. Ça doit être que, en fait, tu rentres, toi, et tu vomis tout de suite, quoi. Voilà. Donc, l'ESSEC, c'est une espèce de. Voilà, il y avait les photocopieuses 3D. Bah, l'ESSEC, c'est une espèce de photocopieuse où tu prends un étudiant ou une étudiante, et en fait, elle va devenir une photocopie de tout ce qui se fait de pire au niveau de la façon dont on va faire du business en France et dans le monde. Donc, c'est vraiment glauquissime.
Mais je sens même, qu'à mon avis, que les gens qui sortent de cette école sont même plutôt inventifs pour faire de nouveau du pire, quoi.
Voilà, c'est bien possible, mais juste quand même pour lui décrire un petit peu son petit pédigré. En 2007, donc Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, et je pense que vraiment, il y a pas mal de monde qui a vraiment, vraiment les boules. Il était recteur de la direction, il était recteur de l'Académie de Créteil, et en fait, il avait lancé des nouvelles expérimentations top, alors je vous en cite deux, des internats d'excellence. Voilà. Il avait lancé ça, c'est des structures dérogatoires pour les élèves méritants issus des milieux défavorisés. Donc voilà, c'était de dire, alors toi t'es méritant, mais t'es des milieux défavorisés. Enfin, un truc un peu affreux qui a été enterré par la gauche en 2012. Puis là, il a trouvé un autre truc, ça va vous plaire ça. Je pense qu'il faudrait qu'on mette ça en place à Canu. Il avait créé ce qu'on appelle la cagnotte pour les décrocheurs, qui était censé inciter les lycéens à l'acidité, à l'acidité, c'est nous qui l'avons dans le ventre, à l'assiduité scolaire. En gros, c'était payer les jeunes pour qu'ils sèchent pas les cours. Voilà.
Ah ouais.
Donc il a mis ça en place.
Bah remarque, c'est
bon, ouais, c'est trop cool.
C'est pas mal. Hein.
Et je pense qu'il est, il est très apprécié dans le monde enseignant.
On te file 2 euros. Quoi.
Ah ouais, non, mais lui, il est très très fort. Et il doit être très apprécié par le monde enseignant, par le reste d'ailleurs, parce que il était le numéro 2 de la rue de Grenelle, donc du ministère de l'Éducation nationale, sous Luc Châtel, donc sous Sarko. Et c'est lui qui a été responsable de l'application de la politique éducative qui a été faite sous le quinquennat Sarkozy. Voilà, qui est une période marquée par les coupes budgétaires et un discours très dur à l'encontre des enseignants. Donc je rappelle quand même que ce type-là vient d'être nommé par Macron pour être au ministère de l'Éducation nationale. Donc ça c'est vraiment, vraiment pas top.
Maintenant, on voudrait bien savoir qui est le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Alors là, et après je pense qu'on va faire plus court pour les autres postes, mais je me suis permis d'appeler, de passer un coup de fil dans le Cantal, puisque c'est un sénateur du Cantal, du côté d'Aurillac. Voilà, donc c'est quelqu'un plutôt de gauche centriste, voilà, qui était à la tête de l'agglomération aurillacoise, qui avait quand même, visiblement, d'après ce qu'on m'a dit de là-bas, on ne pouvait rien faire sans lui, on ne pouvait rien faire sans Jacques Mézard du côté d'Aurillac. Bon, enfin, mon pote du Cantal m'a quand même dit qu'il allait sûrement y avoir des moments un peu comiques et que ça allait bien friter sûrement entre ce monsieur Mézard et monsieur Hulot, parce que probablement qu'ils allaient avoir des points discordants. L'agriculture de monsieur Jacques Mézard, c'est sûrement pas... Nature et progrès, c'est peut-être plus quelque chose de l'ordre de Fleury Nichon ou de choses comme ça. Voilà. Mais bon, on ne va pas lui faire un procès d'intention avant qu'il se soit mis en route.
Et alors maintenant, figurez-vous qu'on a un ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Alors lui, il est pas mal. Il est vraiment pas mal, mais j'espère que les auditeurs et les auditrices en ont pas marre. Mais je vous parlerai de Gérard Darmanin. Alors lui, c'est vraiment pas drôle parce que Nadine Morano a dit que c'était le nouveau chihuahua de Nicolas Sarkozy.
C'est un gamin, il est encore plus jeune que le président.
Ouais, il a 35 ans. Et alors lui, c'est un proche de chez Prof. Il a été porte-parole de Nicolas Sarkozy. Il est qualifié... comme quelqu'un dont il faut se méfier, en tout cas visiblement du côté de la droite. Donc imaginez un petit peu nous comment faut qu'on s'en méfie. C'est visiblement un habitué du double jeu. Alors jeu au sens du double jeu, puis jeu grand jeu où je suis, je vais faire, etc. Juste quand même pour vous donner un petit peu la couleur de ce gars-là. Au moment de la défaite du 6 mai 2012 de Sarkozy, il avait dit que cette défaite avait été due. Au plus de, je vous l'ai guillemets, de 90% des Français musulmans qui ont voté Hollande. Donc lui, pour lui, la défaite de Sarkozy en 2012, c'était à cause des musulmans. Donc ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de peu fréquentable. Et donc il est ministre de l'Action et des Comptes Publics. On ne sait pas bien à quoi il va servir, mais celui-là, à mon avis, il est vraiment, vraiment costaud.
Alors, il faut quand même dire que, conformément aux promesses de Macron, on a un gouvernement parfaitement paritaire. Il y a exactement 11 mecs et 11 femmes. Mais en même temps, les ministres, dans l'ordre où on vous les donne, c'est effectivement qu'il y a une sorte de hiérarchie, mine de rien. On a pu remarquer que les trois premiers, qui sont les trois qui sont ministres d'État, cette espèce de promotion, c'est trois mecs. Et maintenant, on peut remarquer que les 1, 2, 3, 4, 5 qui nous restent à vous donner, qui sont donc les 5 dernières de la liste, eh ben, ça, c'est des gonzesses. Et donc, la ministre de l'An... Et bon, vous allez voir, les intitulés des ministres, des ministères sont quand même de moins en moins... poussent de moins en moins vers quelque chose de complètement essentiel. Et donc, la ministre de l'Enseignement supérieur...
Voilà, donc c'est une... C'est Madame Frédérique Vidal, qui est une enseignante chercheuse, qui était directrice de l'université de Nice. Voilà, a priori quelqu'un de plutôt intéressante.
T'as dit qui, Catherine Vidal ?
Frédérique Vidal, voilà, une biologiste. Ensuite, du côté des affaires européennes, il y a Marielle de Sarnez, qui était la numéro 2, la grande copine.
Ah, mais attends. Ah, elle est en tout dernier sur ma liste à moi, en tout cas. Et dans la manière dont a été donnée la liste.
Voilà, donc c'est la grande copine de Bérou. Hein, donc on peut imaginer que. Voilà.
On a encore une ministre des Outre-mer.
Voilà, Annick Girardin, que je ne connais pas spécialement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle était députée de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une ministre des Sports.
Laura Flessel, donc une spécialiste de l'épée. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec cette épée. Peut-être massacrer à coups d'épée les droits sociaux.
Et puis une ministre de la transition écologique chargée des transports.
Alors, C'est Elisabeth Borne. Alors Anne Hidalgo dit que c'est une fille extraordinaire, une fille épatante, une fille humaine, donc encore une fois, j'en sais pas plus. C'est comme une polytechnicienne, elle a été passée par les SNCF, et puis elle était dans le cabinet de quelqu'un de très courageux concernant le développement durable. Vous avez bien entendu deviné que je parlais de Ségolène Royal, qui était quand même quelqu'un d'extraordinaire et qui a fait tant...
prendre des décisions difficiles et venir jusqu'au bout.
Voilà, c'est ça. Bon, enfin, pour rappeler qu'il y a quand même des trucs affreux dans ce gouvernement... Macron, Gégé Collomb, quelqu'un de droite à l'économie, mais vraiment de très très droite libérale, quelqu'un de droite très très droite à l'éducation nationale, et puis des gens plutôt de droite un peu partout.
Et enfin, il y a aussi des choses qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que Macron s'était quand même, avait quand même dit et répété pendant sa campagne que les droits des femmes auraient droit à un plein ministère. Finalement, on a une secrétaire d'État chargée de l'égalité des femmes et des hommes. C'est ce qu'on a de mieux à se mettre sous la dent. Bon,
ça fait un peu pichite.
Et après cette donc demi-heure que vous avez faite d'annonce du nouveau gouvernement, on va s'écouter une petite chanson, histoire de rappeler que Radio Canu fête ses 40 ans ce samedi et que c'est un groupe qui va être au concert, qui va jouer en concert ce samedi.
Un des meilleurs groupes de hip-hop francophone.
Ouais, alors venez samedi.
Après 13 jours de violence urbaine, le gouvernement recourt aux grands moyens. L'état d'urgence est officiellement décrété.
Sabotage à la SNCF. Ils recherchent des casseurs qui ont brisé une vitrine.
Quelques centaines de jeunes qui sont toujours là et qui apparemment se sont donné le mot et qui sont venus ici pour en découdre avec les forces de l'ordre.
Tous appartiendraient à la mouvance anarchiste des ultras de gauche.
Chaque fuite en faction, y'a des frites en action. Un seul mot d'ordre, insurrection. La vengeance est un plat qui se mange froid. Qui sait, peut-être que demain on sera chez toi. Encore une fois expulsé, avoir les flics marrés pendant qu'on bouge nos affaires et qu'on rêve de tout foutre en l'air. Avoir la rage au cœur écœuré de ce monde corrompu, écartelé entre la raison et l'envie de leur sauter dessus. Sentir ce bouillonnement intérieur quand on voit ses potes menottés partir pour 24 heures ou plus en GAP. Se faire réveiller à 6 heures du mat par des keufs cagoulés qui portent à coups de bélier et nous mettent leurs flammes sous le nez. Ils se croient les plus forts, montrons-leur qu'ils ont tort. On n'a pas dit notre dernier mot, on saura les retrouver quand il faut. Pour chaque flic en faction, y'a des frics en action. Un seul mot d'ordre, insurrection. La vengeance est un plat qui se mange froid. Qui sait, dès que demain on sera chez toi. Rien ne nous arrête, plus ils sévissent, plus il y a de nouvelles têtes. Pour grossir la masse des mécontentes, emmerder le gouvernement qui tente d'écraser la rébellion. Répression, censure, prison. Combien d'alliés tombés qui font la une du JT. Insurgés, incendiaires, jetés en pâture. Bouc émissaire de cette dictature. Collage, racolage, sabotage. Laissons notre rage s'exprimer. Ouvrons les cages de nos imaginations censurées. Écrivons l'histoire à coups de stylo, de flingue, de pieds, de bijoux, de couteau. La lacrymo nous fait pleurer. Quoi de mieux qu'un cocktail pour les faire hurler. Les soldats de l'or n'ont qu'à bien se tenir. Le désordre est notre désir.
Allez, venez écouter ce samedi dans un lieu tenu encore secret pour ses 40 ans, ce groupe qui s'appelle Viscéralement Déviant et plein d'autres d'ailleurs. Et maintenant on va voir Macron vie d'Afrique, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors écoutez, on va se lire un petit article de Alain Saint-Robespierre qui est un éditorialiste dans ce journal qui s'appelle L'Observateur Palga, qui est un journal de Ouagadougou et son édito est titré Macron et l'Afrique, ce qui ne va pas changer. Et il nous dit qu'après un laborieux quinquennat, François Hollande a cédé le pouvoir à Emmanuel Macron dans la pure solennité républicaine, symbole de la continuité de l'État. Dans une Afrique où, certes, la démocratie poursuit son bonhomme de chemin, mais où subsistent encore de nombreux bastions de la démocrature, voire de la dictature soft, ces images élyséennes, symbole de raffinement démocratique, tranche avec nos consternantes alternances, canons sur la tempe, sabre au clair, gourdin levé des insurgés. en Afrique et précisément dans les ex-colonies françaises. On se pique de rêver d'un renouveau dans la politique africaine de l'Élysée. Alors, enfin, en réalité, ça se passe à chaque fois qu'il y a un nouveau locataire à l'Élysée. Les Africains pensent que les choses iront mieux, que la chasse aux dictateurs risque d'être cette fois-ci, enfin, c'est la bonne, ouverte et impitoyable, que le robinet de l'aide au développement va couler à flot, que le commerce équitable va devenir une réalité, etc. Et pourtant, comme ses prédécesseurs, nous dit Alain Saint-Robespierre, il ne faut pas se faire d'illusions avec ce cadre qui promet de donner un coup de jeune aux relations franco-africaines. Alors bien sûr, il a promis d'engager une nouvelle politique en direction du continent africain, fondée sur la liberté et la responsabilité, c'est les mots de Macron. Et puis d'en finir avec, c'est à nouveau les mots de Macron, un certain nombre de réseaux de connivence franco-africains et des influences affairistes qui, on l'a vu, subsistent malheureusement dans le système politique français, en particulier à droite. Mais pour le continent noir, nous dit Alain Saint-Robespierre, plutôt que de s'interroger sur ce qui va changer avec Emmanuel Macron, eh ben, on va plutôt essayer de regarder ce qui va rester pareil. Alors ce qui ne va pas changer, c'est d'abord l'ambiguïté de la France dans son rapport avec la démocratie et l'état de droit en Afrique. C'est que, nous dit Alain Saint-Robespierre, la patrie des droits de l'homme qui s'est donné de grandes leçons sur la gouvernance politique, eh bien c'est aussi le pays qui, au gré de ses intérêts, grenouille dans les marigots africains pour s'acoquiner avec certains vieux crocodiles avides de règne ad vitam aeternam. On peut penser ici à Denis Sassou Nguesso ou au tchadien Idriss Déby, pour ne citer que ces deux-là, mais en réalité on pourrait en faire toute une sacrée liste. Il n'y a aucune raison que ce paradoxe bien français change avec Macron. Ce qui ne va pas changer non plus, c'est le volume de l'aide au développement. Car il ne faut pas trop compter sur cet ancien banquier d'affaires qui, comme tout bon banquier, a des oursins plein les poches. Avec lui, ça sera déjà ça de gagner si l'enveloppe de l'aide au développement reste à son niveau actuel. Ce qui ne va pas changer encore, ce sont les relations commerciales. En effet, on ne le sait que trop. Que ce soit sous un président français de gauche, de droite ou ni de l'un ni de l'autre comme Macron, tout ce qui touche aux intérêts des groupes français relève de l'affaire d'État. De sorte que tout locataire de l'Élysée se trouve être un VRP des grosses boîtes comme Bouygues, Bolloré, Areva, Total ou Engie. Boîtes dont les plus grosses sources de revenus se trouvent en réalité en terres africaines.
Areva ? C'est marrant, ça me rappelle, je ne l'aurais pas vu passer dans le CV du Premier ministre actuel.
Tout à fait.
Tiens, l'article que je lis a été écrit, bien sûr, il y a déjà avant-hier, quelque chose comme ça, c'est avant l'annonce du gouvernement. Et la coopération militaire, particulièrement étroite ces dernières années avec la montée du terrorisme, eh ben ici non plus, rien ne va changer. Que ce soit les opérations Sangaris en Centrafrique ou Barkhane au Mali, ou les récentes bases militaires françaises à Niamey, Ouaga, aucune ne lèvera le bivouac de sitôt. Et Jean-Yves Le Drian, et donc il nous a écrit cet article lundi, ancien ministre de la Défense de Hollande, et donc qui a été nommé aujourd'hui ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc Jean-Yves Le Drian est un des proches de Macron. Et il sera là pour le guider, ce dernier, sur les pas de son prédécesseur.
Et visiblement, il est très fier de sa politique africaine.
C'est ça. C'est le ministre de la Défense qui a lancé le plus de guerres depuis la 5e République ou quelque chose comme ça. Presque que des guerres qui se passaient en Afrique. Pour tout dire, conclut Alain Saint-Robespierre, il ne faut pas s'attendre au moindre bouleversement dans les relations franco-africaines. Et bien naïfs sont ceux qui attendent qu'un vent nouveau souffle de l'Élysée à l'Afrique.
Et alors, je vais faire deux petites infos sur un peu le fascisme. Donc, parce qu'il y a deux hommes qui se sont fait tabasser, parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des antifas. Et ça s'est passé le dimanche 7 mai dernier à Nantes. Et ben, le dimanche 7 mai, comme un peu partout en France, suite aux résultats des élections, ben, y a eu des centaines de personnes souvent qui sont descendues dans les rues pour se retrouver dans la rue et pour protester un peu sur les élections. Et à Nantes aussi. Et il y a eu plusieurs épisodes donc, de confrontation avec les forces de l'ordre, mais aussi avec un groupuscule, du moins des mecs du GUD. Et le GUD, c'est le groupe Union Défense, et c'est des personnes d'extrême droite notoire, on peut dire. Et donc, c'est deux mecs, Steven et Erwan, qui ont 16 et 18 ans, du coup, autant dire, ils sont plutôt... assez jeunes, et c'est quand ils rentraient chez eux après minuit qu'ils ont été attaqués. Et Erwan émerge tout juste du coma artificiel dans lequel les médecins l'avaient plongé après l'agression. Il va avoir un an d'ITT, des fractures au visage, à la tête, au cou, bref, les deux, pour les deux. Donc vous voyez, c'est pas un petit tabassage genre baston de bar, quoi.
Un an d'ITT, c'est énorme.
C'est énorme, quoi. C'est vraiment, ils se sont fait défoncer la figure comme il faut. Et donc, ce qu'ils ont témoigné, c'est ils ont vu 4 personnes fondre sur eux avec barre de fer, bouteille et matraque télescopique, semblable à celle qu'utilise la BAC. Et alors, je cite, dès le soir du premier tour, certains policiers de la BAC ricanaient à notre contact en évoquant la qualification de Marine Le Pen au second tour. Donc, ça, c'est. Voilà. Et si. Donc, on peut constater que l'extrême droite, du moins une partie des gens d'extrême droite, sont de plus en plus violents et vont attaquer un certain nombre de lieux, on voit à Lyon, mais aussi de personnes, que ce soit pour des raisons politiques ou pour du racisme ou pour de l'homophobie.
C'est pas sûr qu'ils soient plus violents, c'est juste qu'ils se sentent pousser des ailes. C'est un peu sûrement le truc, quoi.
Ouais, voilà. Et du coup, le fait que Marine Le Pen soit au deuxième tour, ça aide pas. Voilà, comme tu dis, ils sentent pousser des ailes. Mais il faut pas oublier que la riposte antifasciste se structure aussi et s'est structurée un peu partout en France ces dernières années. Donc il n'y a pas que eux qui gonflent, mais l'antifascisme reprend du
poil de la bête.
Voilà, du poil de la bête, et c'est bien normal. Et quoi dire d'autre ? Qu'un peu partout en France, y a un mouvement antifa de plus en plus fort. Et une autre info qui est que ce samedi 13 mai 2017, ça se passe en Sicile. Et comme on a parlé longuement de frontières le Canu Info dernier, et c'est que des militants identitaires ont tenté de bloquer le bateau d'une ONG qui, elle, va sauver des migrants qui sont partis des côtes libyennes. Et donc, ils l'ont bloqué au port. Et c'est donc des activistes du groupe de l'ultra-droite Génération Identitaire. Et en fait, on va dire que c'était une action très préparée, puisqu'ils venaient tous de plein de pays européens. Donc il y avait au moins un Français dans les identitaires, donc qui sont fait ensuite arrêter pour cette action. Mais ça veut dire que c'était pas trois pélos qui se retrouvaient là et qui se sont dit tiens, on a qu'à bloquer. C'est vraiment des gens qui sont organisés avant pour aller bloquer ce bateau. Voilà.
Ouais, ce qu'on peut noter par contre, c'est soit le côté sacrément lâche d'un côté pour le GUD qui fait à chaque fois c'est le coup de poing de manière par surprise, en surnombre et de manière ultra violente avec armes et tout, soit le côté plus type happening entre guillemets là, de Génération Identitaire là, où ils font des gros coups de com, voilà, c'est un peu les trucs pour aussi d'un côté voir que c'est pas, je sais pas comment dire, on est plus nombreux qu'eux, quoi.
Oui, et puis l'extrême droite, c'est pas un seul et même truc, c'est plein de groupes qui sont structurés de manière différente, qui font des choses différentes, et qu'on laissera pas faire.
Et très bonne transition, puis on va continuer sur deux petites brèves des frontières. Et l'Union européenne demande aux États membres de suspendre les contrôles aux frontières avant novembre prochain. Depuis l'été 2015, plusieurs pays, dont le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège, alors que la Norvège, petite particularité, puisqu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne à proprement dit, mais qui fait partie de l'espace Schengen. Plusieurs pays depuis l'été 2015 donc avaient rétabli leur contrôle aux frontières. Début mai, Bruxelles a accordé une dernière dérogation de 6 mois pour ces contrôles, donc Voilà, donc normalement il y a une liberté de circulation en Europe. Une dérogation est possible d'après l'article 2 de la Constitution européenne, de manière temporaire. Bruxelles la met un holà pour novembre, ce à quoi le Danemark s'est opposé et dit qu'il maintiendra ses contrôles. Affaire à suivre, parce que voilà, tout ça est quand même beaucoup de jeux politiques de la part du gouvernement du Danemark en disant on ne se laissera pas faire par les directives de Bruxelles, nous sommes souverains sur notre territoire, blabla. Voilà, la France avait également rétabli ses contrôles aux frontières, notamment avec la Belgique depuis les attentats, avec l'Italie par rapport aux migrants, voilà. Alors je sais pas exactement, parce que j'ai pas le détail de si en novembre tous les contrôles devront être stoppés, mais enfin faut quand même rappeler que ça veut pas dire que les pays n'ont pas de douane volante aux frontières et ont pas le droit de contrôler les gens qui, enfin vous voyez, ça fait une espèce de nuance un peu où il y a pas de frontières comme sur un pays qui vous traversez qui fait pas partie de Schengen.
Où les douaniers sont pas tous en ligne sur la ligne de la frontière.
Voilà, mais on peut passer la frontière sans être contrôlé, mais on peut aussi être contrôlé.
De leur côté, c'est très efficace, les contrôles volants.
Voilà, donc affaire à suivre pour cette histoire de Schengen. Et on va faire un petit tour du côté de Melilla, où le 9 mai, 300 personnes ont tenté de franchir cette frontière. Alors on rappelle vite fait, Melilla, c'est la frontière qu'a l'Espagne avec le Maroc. Hein, donc Melilla, c'est une enclave espagnole sur le territoire marocain, pardon. Donc ils ont été 300 à 7h du matin à s'être retrouvés pour franchir cette frontière. Cette fois-ci, les migrants ont changé de stratégie et se sont scindés en plusieurs groupes hein, pour compliquer le travail des forces de l'ordre. Ils ont également tenu à distance la garde civile espagnole à coups de pierre et se sont aidés à l'aide de crochets donc pour tenter de gravir cette frontière composée de, on le rappelle, de grillages de 6 mètres de haut surmontés de barbelés ainsi que de lames tranchantes. Sur les 300, au moins 100 personnes ont réussi à passer. Ce passage en force a forcément fait des blessés comme à chaque fois. Cette fois-ci, aucun blessé grave. Les migrants ont été pris en charge par la Croix-Rouge espagnole. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y avait pas eu de tentative de ce genre à Melilla. En revanche, à 400 km à l'ouest, plus de 850 personnes ont forcé la frontière de l'autre enclave espagnole, celle de Ceuta cette fois-ci. Depuis le début d'année, les autorités espagnoles ont décidé de répondre à ces tentatives de passage et à ces passages réussis en augmentant le nombre de policiers et de douaniers le long de ces deux enclaves, donc Ceuta et Melilla.
Et une petite info pour instruire nos oreilles, non ?
Ça c'est... Ouais, pas de problème.
Ah non, pardon,
pas du tout.
N'importe quoi. Au contraire, très bien. Une petite info pour instruire nos oreilles.
Ah, d'accord. pardon, c'était donc pour dire qu'il y a... c'est trouvé sur le net, donc. C'est un blog qui héberge une série de 6 documentaires sonores composés d'entretiens, d'archives et de musique qui racontent l'expérience politique du réseau Rock Against Police. Donc, ce site, vous le trouvez, c'est rapdocsonore, rapdocsonore.org. Et donc, ça reprend donc ce mouvement à la fin des années 70, dans un contexte de crise économique et de chômage, d'expulsion de jeunes immigrés et de meurtres en banlieue, qu'ils soient commis par les flics ou d'autres personnes. Se multiplient et donc il y a un réseau informel et fluctuant qui se constitue pour réagir collectivement en organisant une série de concerts Rock Against Police au beau milieu des cités, donc c'est de 80 à 83, surtout en banlieue parisienne. Bref, 6 documentaires à aller écouter, à lire la description un peu les 3 personnes qui ont construit ces archives là ont fait, et leurs intentions, ça a l'air vraiment canon.
Cauchemar Et face ici, c'est l'intitulé d'une rubrique qui est sur le site Lundi Matin. Lundi.am, c'est un site plutôt recommandable qui, évidemment, paraît, enfin en tout cas, met en ligne des articles tous les lundis matin. Et Cauchemar et face ici, ça se lit facilement.
Enfin, quand ils sont en forme, hein, parce que des fois, il faut attendre jusqu'au lundi après-midi.
Bon, un peu de scepticisme à notre droite, n'est-ce pas? Donc, c'est assez sympa cette rubrique, c'est une espèce de toute petite rubrique de presse de ce qu'ils ont vu sur Internet. Bon, en général, c'est pas les choses les moins légères, les plus légères, enfin, les moins... bref, en tout cas, c'est assez léger quand même. Et je vous propose, pour vous donner un avant-goût de cette lecture que vous pourrez faire par vous-même les lundis prochains, de vous résumer ce qui s'est passé dans Cauchemar et face ici numéro 58. Alors le premier item, c'était, ça s'appelait chaud et ça reprenait un article du Monde qui s'appelait « Tous les indicateurs du réchauffement climatique sont rouges ». Alors en fait oui, ça a l'air d'être vraiment la cata du côté du réchauffement climatique. Il y a le National Oceanic and Atmospheric Administration, donc du côté des US, qui a indiqué qu'un nouveau record de concentration atmosphérique de CO2 vient d'être battu. Au niveau de la fonte accélérée des banquises, ben là c'est la folie. Il y aurait 4 millions de kilomètres carrés de glace de mer en moins par rapport à ce qui est habituel. Donc 4 millions de kilomètres carrés, ça doit faire 4 fois 2, ça doit faire 8 fois la France, quoi, un truc comme ça. Bref, et puis la fonte des glaces polaires qui s'accentue. Alors elle aurait été 30 fois plus rapide entre 2004 et 2015 qu'entre 1993 et 2004. Donc on est mal. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était un point qui s'appelle contrôle. Et ça c'était Monsieur Scully, qui est le directeur central de la police aux frontières, qui s'exprimait sur Europe 1 et qui nous expliquait ses nouvelles conclusions pour renforcer la sécurité des passagers. Écoutez bien, ça a l'air génial. J'ouvre les guillemets, reconnaissance faciale, interrogation en quelques secondes des fichiers de police, tunnel électronique, renifleur d'explosifs. La police aux frontières va se doter de technologies ultra sophistiquées pour renforcer le contrôle dans les aéroports. On salive, ça a l'air super. Un autre point qui s'appelait Monsieur Flashball. Donc c'est l'Humanité qui revient sur la nomination du directeur de cabinet, d'un directeur de cabinet Monsieur Macron qui s'appelle Patrice Zdrozda. Alors, lui, c'est un énarque, il a 64 ans, c'est un ancien préfet de la région Bretagne, et il a été préfet donc, de la région Île-de-France entre les deux tours de la présidentielle. Alors, c'est l'Humanité qui rappelle que ce monsieur était en poste pendant le conflit relatif à la loi travail, et donc du côté de la Bretagne, et à Rennes, la répression des manifestations avait été particulièrement odieuse, affreuse, féroce. Et là, il cite une jeune fille qui s'appelle Jeanne, qui est étudiante, qui dit que les forces de l'ordre, toujours plus près des manifestants, des jets de cartouches de gaz, lacrymogènes à tirs tendus, parfois même jetés n'importe où, ou y compris dans le métro, des coups de matraque et des tirs de flashball au-dessus de la ceinture. On se souvient qu'un étudiant rennais avait perdu un œil à cause d'un tir de flashball. Et ce préfet-là, donc ce nouveau directeur de cabinet de Macron, il a toujours démenti qu'on avait fait utilisation de ce type d'arme. Voilà. Donc c'est pour vous donner une idée du bonhomme. Un autre point rapidement, ça s'appelle ratage et ça nous parle, et là ça fait quand même très plaisir, ça nous parle d'Amazon Go. C'est le projet d'Amazon de faire des supérettes automatisées où tu rentres, tu payes comme ça, c'est freestyle avec ton téléphone portable, etc., etc. Sauf qu'ils ont fait des tests, ils pensaient l'ouvrir début 2017, hein, ces magasins sans personne dedans, sauf qu'en fait au-delà de 20 clients, c'est la cata, et en plus si les clients marchent pas tout doucement, c'est la merde, et en plus si t'es portes des lunettes, c'est la catastrophe, et si t'es un minot, alors là les minots, ils peuvent se servir tant qu'ils veulent parce qu'en fait les robots d'Amazon voient rien du tout, enfin bref, donc Amazon a bu le bouillon de ce côté-là et ça fait plaisir.
Si t'as pas de téléphone portable par exemple, est-ce que tu peux aussi rentrer et prendre tout ce que tu veux et partir? Et
je pense qu'on va pouvoir trouver une solution pour faire ça. Bon, juste pour vous citer d'autres points donc dans cette revue de presse de lundi matin, marchandisation, ça s'appelle Airbnb qui se met à non plus proposer, à ne faire en sorte qu'il y ait des propositions d'appartements, mais tu peux proposer. Alors il y a des services. Alors Sylvie, elle te propose de faire le marché à Bastille avec elle. Natacha, tu peux faire les tournées des bars avec elle. À Paris, tu peux faire une balade de Vélib avec Anto, enfin bref, grâce à Airbnb, maintenant, vous voyez que cette notion de partage, hein, partage au sens humain, se met à devenir l'alibi facile et un peu passe-partout d'une extension perpétuelle du domaine du commerce. Voilà, c'est pas très réjouissant. Et puis deux derniers points. Pas très drôle non plus, ça s'appelle Bouillabaisse et ils ont quand même remarqué que d'ici 2050, il y aurait autant de plastique en poids, en termes de masse, hein, du coup, il y aurait autant de plastique dans les océans que de poissons, en termes de masse. Voilà, donc là, ça craint plein pot. Et le dernier, ça va vous plaire, le dernier point soulevé dans cette revue de presse, c'était le Figaro, qui nous apprend que 80 000 cagoules ont été commandées par le ministère de l'Intérieur pour ces ouailles. Oui, en fait, j'ouvre les guillemets. La revendication, c'est une, enfin bon, je fais court, c'est une revendication des rangs de la police qui veulent que, être de plus en plus cagoulés pour pouvoir en fait ne plus être, j'ouvre les guillemets, des cibles les vivantes. C'est là qu'il faut sortir les mouchoirs. Lundi matin, la revue de presse.
Eh ben, tu nous as vraiment réchauffé le cœur là avec toutes tes infos si funestes. Eh ben alors, je vais pas faire un agenda exhaustif, mais je vais parler de deux soirées féministes qui vont avoir lieu. La première, c'est ce jeudi soir au Rita Plage, soirée Muffin Stage. C'est parce que c'est cool de parler anglais, ça fait plus cool, mais c'est des femmes sur scène, des meufs sur scène. Et c'est parce que c'est l'envie de voir se produire plus de meufs sur scène. Les Muffin Stage t'invitent à venir te faire plaisir, brûler les planches et vomir des paillettes. Et donc à 19h, ça sera Silène du folk blues, du bluegrass, pardon. Et après, il y aura de la chanson, ça sera Claudine Lebeg, la fameuse, et avec Suzanne Flonflon. Et une expo de la sculpteuse Sabine Lee. Et voilà, le Rita Plage, c'est 68 Cours Tolstoï à Villeurbanne. C'est bus C3, arrêt Institut d'Art Contemporain, et l'entrée est à prix libre. Sinon, il y a le 27 mai 2017, donc c'est samedi prochain, sur Synthé, une soirée rap de meufs. C'est le Femme6 Fest qui est de retour pour sa 5e session. Toujours plus de meufs s'emparent du micro ou de diverses disciplines du hip-hop. Donc il y aura des ateliers dans l'après-midi, écriture avec test micro, danse, graphe. Si tu veux participer, inscris-toi sur Femme6 Fest, FEMCESFEST, pardon, j'ai bloqué, @mailou.org. Et pour les concerts, il y aura Safisfer de Lyon, Chanika de Toulouse, Viscéralement Déviant, que si vous avez ou si vous les avez pas vus ce samedi là à Lyon, bah vous pourrez les revoir à Saint-Étienne la semaine prochaine. Et Radical Junkie Pop, c'est de Synthé, et DJ Saucé Soud de Marseille. Voilà.
Parce que peut-être qu'on peut rappeler que vendredi 19 mai à l'atelier Delca Lunaire, dans le cadre des 40 ans de Radio Canu, sera projeté le film Lorraine Cœur d'Acier.
Hyper bien.
Voilà, je l'ai pas vu.
En 79, au moment des grosses luttes contre les fermetures des aciéries, une radio libre pirate et néanmoins hébergée par l'hôtel de ville a été créée à Longwy. Et ça a été la radio de la lutte vraiment pendant un certain nombre de mois. Et le documentaire est filmé plus il y a quelques années là, mais retrouve des anciennes personnes qui ont fait partie de cette radio. Il est magnifique.
Et donc ça se déroule à 20h et c'est à l'atelier des Canulars qui est rue Montesquieu.
91 rue Montesquieu.
Avec un repas à prix libre.
Exactement. Et ensuite le samedi 20 mai, émission.
On sera dehors, et on espère qu'il va faire beau.
Ça va faire du bien. Et ça se passera Place Guichard dans le 7e arrondissement de Lyon de 11h à 19h. Et bien sûr, vous êtes tous et toutes les bienvenus à venir nous rencontrer à ce moment-là.
Voilà, parce qu'on va faire de la radio dehors.
Ce qui est peu commode. Et à 21h, donc toujours ce samedi 20 mai, concert dans un lieu tenu secret, mais plus pour très bientôt. Le suspense se grandit avec Cheval Hongrois, c'est du rap. Viscéralement Déviant, c'est du rap.
Monde Mounsi.
C'est du rap.
C'est du rap, c'est sûr.
Non, j'en suis pas sûr du tout, mais je crois que tu as bien parti pour moi.
Non, non, parce qu'après, il me semble que c'est du punk. Hein. Après, il y a Zone Infinie.
Indie rock.
Indie rock, voilà. Je sais pas ce que c'est. Bref, après, Zone Infinie, c'est du punk. Et Dark Tooth, et c'est du punk. Voilà, gros, gros concert.
Voilà,
et
les 40 ans de Radio Canu.
Et les bénéfices du bar iront à
la caisse de solidarité. Allez, on se quitte avec une dernière chanson de Viscéral Mondévian.
Après laquelle vous retrouverez
Idées Noires.
Idées Noires, l'émission de la CGA.
Bonne soirée.
Ciao.
Salut.
Vous nous avez imposé l'hétérosexualité comme seul modèle de sensibilité, de sensualité et de sexualité. Les garçons aiment les filles et les filles aiment les garçons. Votre conception de l'amour s'est limitée à la procréation de chair à canon. Alors que la nôtre appartenait déjà au royaume des désirs, du plaisir, de l'affection et des étoiles. Puis vous n'avez cessé de propager la haine des queers, la haine des différences. Vous nous avez brûlés, enfermés, chassés, déportés, gazés, dénoncés, psychiatrisés, étudiés, ghettoisés, expérimentés, niés. Puis attestés, testés, contestés, détestés. Que nourrir notre rage, votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitée, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcat capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.